Au Venezuela, un retour au pays triomphal pour Juan Guaido. L'opposant au président Maduro n'a pas été inquiété hier à son arrivée à Caracas. Il continue pourtant à défier le régime en place. Reportage de Benjamin Delisle au début de ce journal. Où est Abdelaziz Bouteflika? Comment va-t-il alors qu'en Algérie, la rue continue à s'opposer à sa cinquième candidature à la présidence de la République? Nous ferons le point avec Nathanaël Charbonnier. C'est le maître mot de la tribune publié par Emmanuel Macron dans la presse européenne ce matin, le mot « protection ». Et justement, à Paris, aujourd'hui est organisé le premier sommet des chefs des services de renseignements européens. Emmanuel Leclerc va nous expliquer les enjeux. Enfin, le Vatican ouvre ses archives sur le pape de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agira de savoir si Pie XII a été passif face à la Shoah, selon l'historien Philippe Levillain. Précision à la fin de ce journal. Au Venezuela, c'est un accueil triomphal qui a été réservé hier à l'opposant Juan Guaido. Il courait le risque d'être arrêté par le régime Maduro pour avoir bravé son interdiction de sortie du territoire. Au lieu de cela, il a pu rentrer dans le pays sans être inquiété, en tout cas à ce stade. Juan Guaido qui continue pourtant à défier les autorités en place. Benjamin Delisle, vous étiez dans la foule de Caracas hier, la foule qui attendait son arrivée.
Le soleil tape fort sur la place Alfredo Sadel à l'est de Caracas. Cela fait déjà près de 2 heures que certains manifestants attendent sans nouvelles du retour de Juan Guaido. Même Roberto Patiño, un proche de l'opposant, n'a pas plus d'informations.
Nous sommes dans l'expectative. A priori, il devrait arriver par l'aéroport de Maiquetia, mais on reste dans l'attente. L'idée, c'est qu'il puisse nous retrouver ici.
Une attente en musique, rythmée aussi par les slogans anti-Maduro, jusqu'à ce que le député Juan Andrés Mejía prenne le micro, sourire aux lèvres.
À l'heure actuelle, il est 12h30. Il est déjà sur le territoire vénézuélien.
Plusieurs manifestants peinent à contenir leurs larmes. La peur de voir leur leader arrêté retombe enfin, explique Amalia, les yeux rougis par l'émotion.
Le fait qu'il ne l'ait pas arrêté, ni les militaires, ni personne, ça veut dire beaucoup.
Lorsque Juan Guaido arrive, une foule de manifestants se presse pour l'acclamer. Coti est une opposante de longue date.
Nous sommes très émus par le retour du président Guaido et de l'appui diplomatique qu'il a reçu. Ça donne beaucoup d'espoir.
Juan Guaido annonce une nouvelle manifestation le 9 mars. Difficile de savoir ce qui se passera ensuite si le gouvernement a cédé sous les menaces américaines. Mais il est certain qu'il n'a pas dit son dernier mot et n'entend pas quitter le pouvoir.
Le reportage de notre correspondant à Caracas, Benjamin Delisle. C'était sa troisième tentative et cette fois-ci, ce serait bien la bonne. Au Japon, le tribunal de Tokyo a accepté la mise en liberté sous caution de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Nissan et de Renault. Accusé de malversation financière, il était incarcéré depuis plus de 3 mois. Carlos Ghosn pourrait sortir dès mardi prochain, à moins qu'un appel n'inverse la décision. Il ne pourrait toutefois pas quitter le territoire du Japon s'il est libéré. L'avenir de l'Algérie passe par le retrait de la candidature du président Bouteflika. C'est le souhait d'Ali Benflis. L'ancien Premier ministre, 2 fois candidat à l'élection présidentielle, a refusé de se présenter en avril prochain. Il préfère soutenir la jeunesse qui a de nouveau manifesté hier dans les rues d'Alger. Alors qu'en France, le Quai d'Orsay observe avec prudence la situation et affirme avoir pris note de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Mais se pose tout de même la question de savoir où est-il et comment il va, Nathanaël Charbonnier.
On le dit en Suisse, dans l'hôpital universitaire de Genève, mais personne ne l'a vu. Il devait inaugurer 3 grands projets à Alger le 24 février dernier, mais personne ne l'a vu. Il aurait dû déposer sa candidature dimanche dernier, là encore, personne ne l'a vu. À croire que le président Bouteflika possède une cape d'invisibilité, invisible depuis des semaines et même des mois. L'une des dernières fois qu'il est apparu à la télévision, c'était en décembre 2018 avec la signature d'une loi de finances. Invisible pour les Algériens et invisible pour ses invités. Le 3 décembre dernier, MBS, le prince héritier saoudien, devait le rencontrer, mais voilà, le chef d'État algérien était alité avec une grippe aiguë. En février 2017 déjà, une visite de la chancelière allemande avait été annulée. À l'époque, le président avait une bronchite aiguë. Bouteflika, homme invisible, est presque silencieux. Il faut remonter à 2014 pour entendre sa voix lors d'un échange diplomatique. Il explique « Ça va, grâce à Dieu, je vais mieux ». Bouteflika, président fantôme, si bien qu'à plusieurs reprises ces dernières années, des rumeurs ont couru sur sa mort. Autant dire que le régime algérien va devoir faire preuve d'imagination pour donner le sentiment qu'il est capable de porter seul la campagne électorale qui commence.
Précision signée Nathanaël Charbonnier. dernier. Près de 300 représentants des services de renseignements européens sont depuis hier soir à Paris. Ils lancent un collège pour le renseignement en Europe. Le secrétaire d'État à l'intérieur, ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez, a lancé les débats hier au Centre international du ministère des Affaires étrangères. Au menu, l'affaire Skripal pour les Russes ou encore l'espionnage sans limite des Chinois. Une réunion exceptionnelle en l'absence des grands partenaires habituels américains. En premier lieu, Emmanuel Leclerc.
Les Américains, les Israéliens et les Turcs n'ont pas été invités à Paris, même en tant qu'observateurs, des partenaires jugés parfois très encombrants dans un certain nombre de dossiers industriels et diplomatiques. Ce n'est pas un acte de défiance pour les organisateurs de ce premier sommet européen des chefs des services de renseignement, mais la volonté de cibler des retours d'expérience de pays qui coopèrent au quotidien en Europe, mais qui ne classifient pas toujours les renseignements avec les mêmes degrés de confidentialité, des pays à l'ouest et à l'est du continent qui n'ont pas toujours la même méfiance, voire la même défiance vis-à-vis de Moscou et de son grand service de renseignement, le FSB. Et c'est depuis hier, selon nos informations, l'un des thèmes des débats forcément sensibles entre services européens d'espionnage et de contre-espionnage. Il est prévu également de revenir sur l'immense travail fourni depuis 2015 sur le contre-terrorisme, les coopérations, celles qui ont marché, celles qui sont beaucoup plus compliquées avec certains pays hors Union européenne. Enfin, l'un des thèmes les plus consensuels, c'est l'espionnage chinois dont les méthodes et les moyens financiers engagés dépasseraient l'entendement.
Et le président de la République Emmanuel Macron clôturera la séance plénière de ce sommet inédit des chefs espions européens cet après-midi à Paris. Emmanuel Macron qui s'exprime dans la presse des 28 pays européens. Ce matin, le chef de l'État décline ses propositions pour l'Union européenne, de la remise à plat de Schengen à la création d'une banque pour le climat. Ce n'est pas une entrée en campagne, mais une impulsion ou une façon de planter le décor avant le scrutin du 26 mai, explique-t-on à l'Élysée, précision de Catherine Dutu dans le journal de 7h. La Cour nationale du droit d'asile s'apprête à lancer une expérimentation pour les recours des étrangers déboutés de leur demande d'asile. À partir de la semaine prochaine, les demandeurs d'asile de la région de Lyon et de Nancy seront jugés par visioconférence, c'est-à-dire par écran interposé. Cette procédure est justifiée pour des raisons financières et de temps. Mais les avocats ne sont pas d'accord et ils menacent de boycotter les audiences, Corinne Audouin.
À Montreuil, les juges de la Cour nationale du droit d'asile, à Lyon et à Nancy, les demandeurs d'asile de la région accompagnés de leurs avocats et de leurs interprètes. Entre les deux, des écrans pour permettre de les juger à distance. Un dispositif inadapté selon Morad Zouine, avocat spécialisé en droit des étrangers à Lyon.
On établit la véracité du récit d'une personne au regard de son comportement à l'audience, de la façon avec laquelle elle raconte son histoire. À travers un écran, déjà, ça va brider la parole de personnes qui ont souffert de sévices, qui ont beaucoup de mal à exprimer ça devant une caméra. C'est ce que je dis aux personnes que je défends, c'est le grand oral de votre vie, de montrer au juge que le récit est réel.
La CNDA met en avant un gain de temps et de confort en évitant aux demandeurs d'asile de se déplacer, une accélération que redoute le bâtonnier de Lyon, maître Farid Hamel.
C'est une déshumanisation de la justice. À Montreuil, les audiences durent parfois sur un dossier une heure ou une heure et demie. Avec une caméra, ça sera 10 minutes, 20 minutes maximum, parce qu'on voit pas bien, parce qu'on n'arrive pas à sentir le dossier, parce que on a l'impression de parler à un mur.
Les avocats de Lyon ont voté la grève des audiences et déposé un recours devant le Conseil d'État. Ils suggèrent à la CNDA d'organiser plutôt des audiences foraines où ce sont les juges qui se déplacent.
L'expérimentation doit débuter le 11 mars. Elle durera 2 ans. Le plan de sauvegarde de l'emploi qui scelle la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort a été validé dans la nuit par la direction du travail. Selon les syndicats, seuls 400 salariés pourraient être éligibles à la pré-retraite. Le pape François s'est engagé hier à ouvrir les archives jusque-là secrètes du Vatican sur la papauté de Pie XII, le pape de la Seconde Guerre mondiale. Son rôle vis-à-vis des juifs persécutés fait encore débat aujourd'hui. L'ouverture des archives est donc une bonne nouvelle pour les historiens et notamment pour le professeur Philippe Levillain. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
La question qui se pose est de savoir quelle a été la véritable attitude de Pie XII vis-à-vis des Juifs. En 1963 est parue une pièce accusatrice qui s'appelle Le Vicaire, qui a littéralement dénoncé la faiblesse de Pie XII face à la Shoah, c'est pas le mot encore qui existe. Il y a donc deux camps, le camp des silencieux qui dénoncent le silence de Pie XII, que Paul VI a essayé de compenser par la publication de 11 volumes d'archives sur la période 1940-1945, qui pour autant ne satisfait pas du tout ceux qui pensent que le silence de Pidouze est un silence qui en réalité a été plus ou moins complice de la persécution nazie, en tout cas aurait pu éviter cette persécution, et c'est le débat qui ressort constamment. Il en résulte que l'ouverture des archives Pidouze a été constamment réclamée pour obtenir la lumière, que la publication de ces 11 volumes n'a pas servi à alimenter une quelconque réflexion approfondie, et que l'ouverture aujourd'hui va susciter beaucoup d'espoir et peut-être beaucoup de déception. En tout cas, c'est une opération de transparence qui est utile à l'Église, utile au Saint-Siège et utile à la communauté historique et à l'opinion publique.
Des propos recueillis par Bastien Roc. La météo de ce mardi 5 mars, de la pluie au nord, alternance de nuages et d'éclaircies au sud. Il fait ce matin entre 8 et 13 degrés.